est dans l'actualité des idées aujourd'hui, une réflexion sur les figures du bien et du mal, sur les principes de justice et l'injustice, avec notre invité, l'avocat pénaliste, maître Thierry Ilouze, qui publie « Même les monstres » aux éditions de l'Iconoclaste. « Défendre, c'est épuiser l'idée du mal », écrit-il. Il continue pourtant à analyser cette idée avec les outils du droit et ceux de la littérature. Auteur de romans, dont « La nuit commencera » chez Bûcher-Chastel, prix Simenon en 2015, et de pièces de théâtre, dont « À ma troisième robe », repris par François Morel, il distingue bien les deux genres, les planches et le prétoire, rejette la justice spectacle et continue à plaider pour la défense des monstres dans ce nouvel essai témoignage. Bonjour à vous, maître Ilouze.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais la robe d'avocat, elle peut métamorphoser souvent aussi un homme. Qui êtes-vous, vous, quand vous êtes en noir ?
Oui, je pense que ça peut métamorphoser. Je suis justement, quand je suis en noir, je suis pas exactement le même. Je suis quelqu'un qui prend la parole. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui me change un peu. C'est pas ma nature habituelle. Je suis plutôt, c'est ce que je raconte dans le livre, plutôt timide, réservé. Mais être dans une robe d'avocat, ça signifie quelque chose. C'est-à-dire prendre la parole, non plus pour soi, non plus en son seul nom, mais pour d'autres. Être pour l'autre.
Et contrairement à beaucoup de vos clients, entre guillemets, vous avez le pouvoir des mots. C'est-à-dire que vous prenez la parole, mais avec la force des mots que vous savez manier, vous savez parler.
C'est la question du langage, oui, que j'essaye d'évoquer également. Elle est au centre de la question judiciaire. Et la question pénale en particulier, j'ai souvent affaire à des populations, j'ai souvent eu affaire quand je fréquentais au quotidien cette justice-là, à des gens qui étaient démunis au niveau de la parole, au niveau de l'expression, au niveau du langage, au niveau du mot. Et l'avocat, il a sa pleine vocation, il doit assumer cette pleine vocation de porte-parole, de porte-voix. Et précisément, c'est ça la question, c'est-à-dire cette prise de parole pour l'autre. Donc, essayer d'apporter du langage, d'apporter une transition entre le juge, qui est le détenteur du langage aussi, d'un langage juridique obscur pour les parties, quelquefois violent. Le langage qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas pour un individu, c'est paralysant, c'est effrayant parfois.
Donc vous êtes à la fois le porte-parole et le traducteur.
Oui, c'est vraiment le rôle d'un traducteur. Mmh. C'est exactement cela. On prend sur soi d'être ce messager, cet interlocuteur au sens littéral du terme, qui va translittérer, qui va passer d'un état de la parole à un autre.
Comment vous habitez la fonction, maître Ilouze ? C'est-à-dire qu'une fois que vous avez revêtu cette robe, vous êtes ce porte-parole, mais au-delà de ça, que représentez-vous ?
Je représente, pour moi, dans mon métier, je présente l'idée de la défense au sens général du terme. C'est-à-dire englober, non pas un acte, non pas un moment de l'histoire, non pas une anecdote judiciaire, si j'ose dire, mais quelqu'un qui, je parlais de traduction, qui porte en soi une reconnaissance du monde, une connaissance, en tout cas, qui applique une sorte d'élucidation du monde. C'est-à-dire essayer par tout ce qu'on connaît, ce qui nous importe, la question politique au sens large du terme, c'est-à-dire en quoi un individu est pris dans une société, en quoi cet individu est appelé à répondre dans le cadre d'un procès, dans la société elle-même, d'un acte.
Et représenter la défense, c'est aussi représenter ou incarner une certaine idée de la justice. Comment vous pouvez nous expliquer quel est le rôle de l'avocat pénaliste, du défenseur, quels sont aussi les droits de la défense, quand on entend cela souvent, cette particularité de la défense dans cet univers ?
Mais je pense que c'est fondamental. C'est fondamental parce qu'il y a un aveuglement sur ce qu'est l'individu délinquant. Entre guillemets, l'avocat, c'est celui qui justement, à mon sens en tout cas, est chargé de changer la nature de l'opinion, à passer d'un état de l'opinion qui consiste à dire que on enferme quelqu'un dans un acte et qu'on le réduit à cet acte. L'avocat, c'est celui qui va porter cette défense, mais aussi plaider pour quelque chose qui sort du tribunal. à mon sens.
Et la première des opinions, c'est celle du juge, de celui qui va rendre la sentence avant l'opinion publique.
Oui. Mais le juge n'est pas, c'est pas l'opinion de n'importe qui. Le juge, c'est une instance, c'est une institution. Et la parole de l'institution, c'est une parole qui est entourée, qui est chargée, qui est connotée, si j'ose dire. Et c'est à cette parole-là qu'on doit se confronter pour libérer quelque chose de la défense. Faire éclater cette confrontation qui me paraît souvent biaisée. C'est un peu ce que j'essaie d'écrire, c'est aussi pourquoi j'essaie d'écrire au-delà même de la défense du prétoire, écrire ailleurs, en dehors du prétoire.
Alors avant d'en venir à la figure du monstre qui est au cœur de ce récit, même les monstres que vous signez aux éditions d'Iconoclaste aujourd'hui, Maître Illouze, il faut comprendre d'où vous venez pour comprendre comment vous en êtes arrivé là. Et c'est ce à quoi vous vous exercez dans cet ouvrage. Il ne faut pas être d'accord avec le monde pour choisir le métier fou et désespéré de défendre. Dans ce livre, vous vous livrez à une forme de reconstitution. Défendre, est-ce que c'était une vocation? Défendre, est-ce que, même en réaction, c'était pas au fond une affaire de famille aussi?
Oui, j'aime bien l'expression, parce que je crois que vraiment, dans tous les sens du terme, c'est ce que je pense. Défendre, c'est une affaire de famille. J'écris un roman, La nuit commencera, que vous avez évoqué tout à l'heure, dans lequel on suit un procès d'assises par les yeux de la mère de l'accusé. Et je me dis que c'est une métaphore utile. Je pense que c'est une affaire de famille, ce qui se passe. Et moi, alors au sens plus littéral, je raconte dans ce livre des éléments de ma vie, des éléments biographiques. J'y mêle cette expérience intime, personnelle, à cette grande histoire du travail, du métier, de la vocation. Parce que j'ai un parcours, j'ai une histoire comme tout le monde. Elle se mêle, elle se mélange à mon sens, elle communique avec mon travail d'avocat. Mes parents étaient rapatriés, il y a eu une traversée de la mer, il y a eu cette question de la migration d'une certaine manière.
Vous êtes né en Algérie.
Je suis né en Algérie.
Mais vous êtes arrivé en France après. C'est voilà. En partie pour vous d'ailleurs que cet exil s'est fait.
Oui, voilà, je suis né dans l'exil. Et je pense qu'à partir de là, je crois qu'à partir d'un élément aussi ténu de son histoire, même un élément presque inconscient, puisque j'étais vraiment très jeune, on a accès à des réalités. Cette réalité du déplacement, de la migration, mais aussi cette arrivée dans une cité grossière, et où j'ai vécu, où j'ai croisé les populations en souffrance, les populations maltraitées, quelles qu'elles soient, que j'ai croisées aussi dans mon métier, que j'ai rencontré après. D'ailleurs, c'était même tout près du même quartier. Je crois que ça, c'est un événement important dans mon histoire, cette communication, ce rapport d'identité, qui, à mon sens, fait partie de la définition de l'identité, ce croisement-là.
Voilà, ces camarades d'école que vous retrouvez parfois dans les prétoires. La cour d'assises, c'est un petit monde en soi. Je vous propose d'écouter une grande voix de la chronique judiciaire, la journaliste Pascale Robert-Dillard. Des procès, elle en a suivi beaucoup, et dans tous les coins de la France. Écoutez-la parler de cette place particulière qu'est la cour d'assises.
La cour d'assises, c'est quand même un endroit où vous asseyez sur un banc, et puis on vous met tout sur la table. Depuis la petite enfance, on va vous raconter comment vous étiez, quels sont vos rapports avec votre mère, avec votre père, avec vos frères et sœurs, et l'école, etc. Et votre petite amie, etc. Et les enfants que vous avez eus. Et... Oui, ça fait partie de ces moments, c'est quand on dit que l'acte criminel peut être monstrueux, mais que celui qui l'a commis n'est jamais un monstre. Et ça, on le vérifie vraiment à chaque fois. Je pense que c'est vraiment la grande, grande leçon des cours d'assises. Et c'était quelqu'un qui est accusé, qui a été condamné pour 5 meurtres, dont 3 enfants. Et qui, à un moment donné, le président de la cour d'assises lui parle d'un exposé qu'il a fait sur les papillons. Et il lui dit, oui, votre instituteur, d'ailleurs, nous a parlé d'un exposé remarquable que vous aviez fait sur les papillons. Et l'accusé, qui encourt la perpétuité, qui est dans un... dit, ah bon ? Il s'en souvient ? Et il est complètement... Et ce moment-là, il a 8 ans, il a 9 ans. Enfin, c'est un môme, et c'est un môme, il n'était pas criminel quand il avait 9 ans. Voilà. Et ces moments-là sont des moments magnifiques, parce que tout d'un coup on se dit bah voilà quoi, ça y est, donc on pense plus après qu'on peut qualifier quelqu'un de monstrueux.
défendre, comme vous le racontez, Maître Ilouze, ce n'est pas excuser. Quel que soit le crime commis, il faut avant tout chercher à comprendre, c'est-à-dire à saisir quoi ? Cette part d'humanité qu'évoquait à l'instant Pascal Robert Diard.
Oui, je suis très sensible à ce que dit Pascal Robert Diard. Il y a cette urgence, cet absolu, cet impératif catégorique de chercher à comprendre, ça c'est clair. Mais comprendre, c'est très large. C'est à la fois ce qu'elle racontait là de l'interrogatoire, de l'audition à la barre de la cour d'assises, de ces éléments biographiques qui sont égrenés. C'est très intéressant. Ça fait partie, bien sûr, de la compréhension. Je pense qu'un acte seul n'existe pas. Il est toujours dans un système de corrélation avec l'histoire des gens, avec les implications multiples. Alors moi, ce que je dis, c'est que c'est souvent insuffisant. C'est-à-dire, ce qui se passe dans une cour d'assises, c'est très beau, et ce surgissement-là, c'est d'un événement, de cette histoire des papillons, ça m'émeut parce que là on accède. Moi je dis toujours que j'essaye d'apporter des visages, de dévoiler, de démasquer quand je défends ou que ce soit cette volonté de complexité. Parce que je pense qu'on est dans une époque qui a une sorte de passion pour la simplification. Il faudrait, pour défendre, vraiment comprendre. Et le tribunal, la cour d'assises elle-même n'est pas suffisamment, à mon avis, complexe. C'est-à-dire que cet élément de la vie des gens, c'est très bien, mais je pense qu'il faudrait aller encore plus loin. Il faudrait presque qu'il y ait un philosophe, qu'il y ait un sociologue. Il faudrait que l'individu ne soit pas... Il y a un philosophe, là, Geoffroy de la Ganerie, qui emploie ce mot, qui dit que souvent, on fait une narration individualisante. On pratique ce terme-là, la narration individualisante, c'est-à-dire qu'on isole un individu et on ne le relie pas assez au monde, pas assez aux implications sociologiques, politiques, historique, social, sur sa situation économique, sa situation dans le monde. On le fait pas assez dans ces tribunaux. Je pense qu'il faut le faire de plus en plus. Et il faut, c'est ce que j'essaye aussi de faire moi quand je défends, bien sûr.
Geoffroy de la Ganerie, dans son livre sur l'acte de punir, depuis 30 ans, donc vous défendez dans des cours d'assises des hommes, des femmes qui sont donc jugés pour les actes qu'ils ont commis. Vous écrivez dans ce livre, j'ai été cet enfant des cités qui regarde, écoute et devient. Mon histoire rejoint celle de ceux que j'ai eu à défendre. Nous partageons la question de l'origine, de l'exil et de l'identité. Comme eux, j'entends ce que ce mot contient, identité, identique, le même. Est-ce à dire qu'on ne peut pas bien défendre si on ne partage pas une forme de communauté d'intérêt pour vous, Thierry Ilouze ?
Oui, à ce détail près que ce n'est pas possible de ne pas partager avec l'humanité. Dans l'absolu, on ne pourrait pas défendre si on ne partageait pas, mais tout le monde partage. Il y a un refus parfois à partager des expériences, des communautés. On a un territoire commun avec n'importe qui. Et à partir de ce moment-là, la défense est possible. À partir du moment où on reconnaît, je pense pas seulement au rôle de l'avocat, je pense sur la place publique dans la société, on a des points de contact avec tout le monde. Et d'une certaine manière, quand on défend, quand on travaille un dossier, on le creuse et ce qui nous apparaît, c'est toujours quelque chose d'intelligible. C'est-à-dire que moi, je peux comprendre de là où je suis, avec ce que j'ai vécu, ce qui s'est passé, ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. Il n'y a pas, de mur infranchissable entre lui et moi. Entre celui qu'on appelle le monstre, on pourra peut-être revenir sur cette idée terrible du monstre qui circule et peut-être de plus en plus. Il n'y a pas de film entre lui et moi. On est dans le même monde, on partage des expériences, il y a toujours des points de contact.
Exemple d'une affaire que vous avez eu à traiter et où vous êtes posé ces questions-là. Une affaire qui aurait été vraiment un cas de conscience pour vous, où vous avez dû aller chercher ces ressources en vous.
Mais on se la pose à chaque fois, c'est-à-dire que j'ai défendu des meurtres, j'ai défendu des meurtres, c'est pas des meurtres que je défends encore une fois, j'ai défendu des auteurs de meurtres, j'ai défendu des histoires, des individus impliqués dans des histoires de pédophilie. Peut-être que là, on est à l'ultime expérience de ce qu'est la défense, parce que ce sont bien évidemment, mais comme tous, les actes que l'on réprouve très, presque viscéralement, comportements. Ce sont des actes abjects. Et à partir de là, commence la véritable idée de la défense. C'est à partir du moment où c'est insoutenable que commence l'idée de la défense, du rapprochement avec l'auteur de l'acte.
Et là, vous dites que l'empathie n'est pas synonyme de complaisance. Elle est cadrée d'une certaine manière par la fonction. Depuis 30 ans que vous pratiquez ce métier, cette vocation, vous avez donc défendu ce qu'on appelle des monstres. Est-ce que c'est parfois aussi pour vous avec la peur d'en devenir un vous-même ? Parce que tout est une affaire de limite, de transgression, et à essayer de comprendre ces imaginaires, comment se protéger quand on passe 30 ans de sa vie dans cette noirceur humaine ?
Je ne sais pas si c'est la peur d'en devenir à moi-même, c'est la certitude que c'est possible en chacun, que c'est possible en moi, bien évidemment, qu'il n'y a pas cet individu. Alors, on parle du monstre, il faut peut-être revenir sur ce terme qui fait que, justement, on enferme quelqu'un dans quelque chose. On le sépare du monde, on l'isole, on le met à distance, et on estime qu'il est là où nous ne sommes pas. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'individu, quels que soient ses actes, qui soit là où nous ne sommes pas. Nous sommes toujours au même endroit que lui, nous partageons. Et le monstre, c'est une figure utile. D'une certaine manière, elle soulage. Elle permet de se mettre en recul et de dire, quelle que soit ma vie, quelles que soient mes erreurs, quelles que soient mes faillites...
Je ne suis pas un monstre.
Je ne suis pas ça. Malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle que j'annonce, ce n'est pas vrai. Nous sommes aussi cela, nous contenons cette possibilité. Il y a des facteurs, il y a des éléments, il y a des événements qui ont fait que cet individu s'est retrouvé du côté de l'acte, alors que nous n'y sommes pas, mais nous sommes tout près de lui. Je crois qu'on est obligé de faire face à cette vérité essentielle.
Donc qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot pour vous, Maître Illouz ? Il y a nos peurs, nos propres peurs ?
Bien sûr qu'il y a nos propres peurs et notre volonté aussi de constituer des remparts avec cette peur, avec cette certitude intime, presque parfois inconsciente, que nous portons aussi ces dérèglements éventuels.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette phrase « Si Barbie était un monstre, nous serions sauvés ».
Oui, c'est ce que j'écris dans ce livre, parce que si véritablement il y avait des individus qui étaient par nature, par essence, retranchés à l'humanité, alors nous serions sauvés. Ces gens-là, il faudrait les mettre à distance, il faudrait ne plus avoir de commerce avec eux, mais ce n'est pas vrai. Nous ne pouvons pas saluer cette histoire du monstre comme une possibilité de se sauver nous-mêmes. Au contraire, nous devons y faire face parce qu'elle est tout proche de nous. Et Barbie, c'est un exemple évident, puisqu'en fait, il n'a pas été le seul dans cette histoire. Il était entouré de nombre de congénères qui ont participé de la même manière que lui. Il n'est donc pas une figure fermée, isolée, unique.
On vous a souvent posé la question, j'imagine, de ces crimes indéfendables. En existe-t-il ? Est-ce qu'il y a des crimes que vous avez ou que vous auriez refusé de défendre ?
Alors, encore une fois, effectivement, je n'ai pas défendu les crimes. Je ne défends les pas
hommes
les crimes.
Qui auraient voilà, commis les crimes.
je défends des auteurs. C'est vrai, pour quelqu'un qui écrit beaucoup, je trouve c'est
trop blanc. La première fois, c'est vous qui l'avez faite. Hein. Moi, j'avais bien appris la leçon.
C'est vrai, je l'ai faite aussi. Parce que on a tendance à dire ça. On a tendance et je corrige parce que ça a du sens. Voilà. Mais indéfendable, non. Cela n'existe pas. L'indéfendable n'existe pas. Je ne vois pas comment on pourrait soutenir qu'il y a urgence à comprendre, à expliquer, à complexifier, à apporter de la lumière et dire, d'un autre côté, il y a des choses qui sont indéfendable, non. On a ce terme est insupportable.
Vous évoquiez tout à l'heure, Maître Illouz, votre roman La nuit commencera dans les yeux de la mère de l'accusé. Voilà qui évoque une autre affaire et un dialogue tendu qui a eu lieu sur les ondes de nos confrères de France Inter. Un honneur, a-t-il dit. C'était les mots de l'avocat pénaliste Éric Dupond-Moretti, défenseur d'Abdelkader Merah, le frère du terroriste. Il était revenu dans cet échange avec Nicolas Demorand sur ce procès et sur son rôle.
Savez-vous que l'on m'a reproché et ça m'émeut beaucoup, que j'ai pu dire à un moment, après 3 heures d'interrogatoire de la mère Mera, dont on savait qu'elle avait menti, mais copieusement menti, j'ai dit à un moment, mais elle a aussi un fils qui est mort.
Vous l'avez dépeinte en Mater Dolorosa?
Non, non, pas du tout. Ça, c'est vous qui le dites, ce ne sont pas mes mots.
J'ai non, non, seulement mais, dit... oui, c'est mes mots et non, je les revendique, il n'y a pas de problème.
Je l'ai... D'abord, je ne l'ai pas dépeinte, j'y ai pas passé beaucoup de temps, j'ai seulement dit qu'elle était là depuis 3 heures, qu'on savait parfaitement qu'elle avait menti. Enfin, 3 heures pour elle, 20 minutes pour Squarcini. Il y a quand même un petit problème. Il y a un moment, j'ai dit, mais enfin, elle a quand même perdu un fils. L'autre est en tôle, et la fille
vous
est
partie... Vous ne trouvez pas ça obscène, de le dire comme ça?
Pourquoi, c'est pas une mère?
Devant les familles de victimes.
Monsieur Demange, je ne sais pas si vous pensez réellement que c'est obscène, ou si vous me posez la question pour me provoquer, mais je voudrais vous dire quelque chose. Le chagrin des victimes est
je
tellement...
Je pense sincèrement que c'est obscène.
D'accord, alors je vais vous répondre. Le chagrin des victimes ne peut pas être confiscatoire. Une mère, voyez-vous, même si elle met au monde un enfant qui est le dernier des derniers, peut avoir de la peine. Et que vous ne compreniez pas ça, ça m'étonne beaucoup. Ce qui est obscène, c'est de dénier à cette femme le fait qu'elle soit une mère. C'est pas une vache qui a vêlé, monsieur.
Vous avez déjà entendu cet échange?
Oui, bien sûr. Bah, ça me parle parce que je comprends très bien ce que dit Dupond-Moretti. Moi, je vais même plus loin, peut-être. Je pense que je préfère la mère au juge. C'est-à-dire que je préfère cette question, cette considération-là. Je pense que si on ne passe pas par là, alors il n'y a pas de défense possible. Si on ne passe pas par... tout à l'heure, Pascal Robert-Diard évoquait la comparution aux assises, notamment de la famille, notamment, et elle a insisté sur l'importance de cet éclairage-là. Je crois qu'il y a un devoir, quand on défend, de considérer cette partie, je disais tout à l'heure que c'est une affaire de famille, de considérer l'autre comme un membre potentiel de sa famille, avec toute la distance bien sûr que je reconnais à la fonction, au devoir de cette fonction, mais il y a une obligation de considérer que celui qui est dans le box, quel que soit son acte, a une famille, existe dans le sentiment, existe dans les affects. C'est un devoir pour le juger, parce que c'est à partir de là qu'on le considère comme un de ceux qui peuvent être jugés. L'individu qui est dans le box, pour moi, ne doit pas être un paria, mais un père. P-A-I-R. Je veux dire quelqu'un qui fait partie du même groupe que soi. On ne peut pas faire exception et faire l'économie de ce rapport entre l'affect, entre la considération affective qu'on peut avoir pour les individus, quels qu'ils soient, quels que soient leurs actes, à partir du moment où on partage une expérience avec eux, qui est d'être ici, dans ce monde, dans cette société.
Ça, c'est une empathie nécessaire pour l'avocat. En quoi ça l'est pour l'opinion, comme vous le disiez tout à l'heure, et en quoi ça l'est surtout pour les familles des victimes? C'est là où il faut peut-être distinguer, et que le dialogue est peut-être aussi un malentendu. J'ai l'impression que chacun ne parle pas de la même chose, ne défend pas les mêmes personnes.
Moi, je pense que c'est la même chose, c'est-à-dire que l'empathie, vous évoquez ce terme d'empathie, on me le reproche parfois dans la présentation que je fais de ce que je ressens, de ce métier, de ce que je comprends, elle n'est pas nécessaire, elle est indispensable, c'est-à-dire pouvoir se mettre à la place de l'autre, est-ce que c'est pas la première question qu'on doit se poser à partir du moment où on prend en considération un acte. Et je pense que c'est aussi quelque chose, que pour rebondir sur ce que vous disiez, que l'on doit aux victimes. Si on place en face des victimes un individu, comme je disais tout à l'heure, un monstre scellé dans une enveloppe infranchissable, comment les victimes peuvent avoir un minimum d'explications sur ce qui est arrivé, sur la façon dont les choses se sont déroulées, d'essayer d'avoir une explication? Ne doit-on pas même aux victimes? Je sais bien qu'il y a aujourd'hui une sorte de religion de la victime, de sacralisation de la victime, qui ne profite qu'au modèle intellectuel de l'idée de victime, mais certainement pas aux victimes réelles, aux victimes qui sont assises sur les bancs de la cour d'assises. Elles ont besoin d'entendre ce qui s'est passé. Elles ont besoin de comprendre avec toute l'émotion que ça suscite. Bien sûr, on ne peut pas jamais dénier aux victimes ce mouvement de violence à l'égard de celui qui a été à l'origine d'un acte, mais si on ne leur explique pas quelque chose, si on leur donne pas à voir un visage, je ne vois pas comment on satisfait aussi leurs droits.
Vous évoquiez la frontière floue entre nous et le dit monstre, Maître Ilouz. Cette idée aussi que l'accusé est devenu, ou devrait être, un miroir pour nous tous. Qu'aurais-je fait à sa place? C'est une question qu'on devrait pouvoir se poser dans ces conditions-là, non pas pour excuser, mais pour tenter de comprendre. Si on ne peut pas clairement délimiter, identifier cette figure du mal, comment, dans ces cas-là, identifier la figure du bien, comprendre ce qui est bien?
Vous savez, je pense souvent, ce sont des termes qui font peur. Le terme du bien et du mal, bien évidemment. Je me souviens de cette phrase de Vassili Grossman qui disait « Le bien n'existe pas, et je le sais parce que Hitler voulait le bien ». À partir du moment où on considère le bien, on essentialise cette question du bien et du mal. Et là, on tombe dans quelque chose d'insupportable. Ça n'existe pas. Ce qui se passe, bien évidemment, on peut avoir des observations, on peut avoir des critiques, on peut avoir des convictions sur un acte, sur un élément, sur une pensée, sur une conviction, sur ce que vous voulez. Il n'en demeure pas moins que faire fonctionner les choses sur les registres du bien et du mal, c'est ignorer ce que vous disiez tout à l'heure de cette frontière extrêmement ténue. Je raconte l'histoire d'un meurtrier que j'ai croisé dans mon histoire, dans mon enfance, et je dis, il n'y a qu'un fil entre lui et moi. Je crois que toute l'interrogation, toute cette histoire-là, toute la défense, tous les procès, c'est la question du fil.
Qui est ténu. Je vous propose de retourner vers un autre procès, celui de Michel Fourniret, l'ogre des Ardennes, et sa femme qui a été jugée pour le viol et le meurtre de plusieurs jeunes filles. Une affaire extrêmement dure qui avait donné lieu à l'époque à un réquisitoire très violent de l'avocat général Francis Nagbar. Écoutez.
Il n'est pas habituel qu'un avocat général vienne s'expliquer à la fin des débats, mais Francis Nagbar a provoqué un tel malaise par la violence de son réquisitoire, parfois à la limite de l'insulte, Monique Olivier la sorcière, l'araignée gluante aux grandes pattes visqueuses, etc., qu'il a tenu à faire une mise au point, non pas sur les peines requises, le maximum pour les deux, il est dans son rôle, mais sur cette attitude qu'il a eue de s'adresser aux vrais êtres humains, a-t-il dit, pas aux deux monstres du box des accusés. Francis Nagbar.
Un homme ou une femme qui commettent des actes aussi monstrueux, moi je les appelle monstres. Si c'était des monstres, alors cette fois-ci au sens non pas commun du terme, comme je l'ai utilisé, mais au sens psychiatrique du terme. Atteint d'une maladie psychiatrique extrêmement grave, il est bien certain qu'il n'y aurait pas eu de cour d'assises, puisqu'ils auraient été naturellement, ils auraient fait l'objet d'un internement d'office. Chacun a sa manière de parler. Moi, c'était peut-être un peu basique, mais celui qui commet des actes monstrueux, je le considère comme un monstre, au sens, encore une fois, commun du terme.
Un avocat général prêt de craquer, nous a-t-il semblé, comme beaucoup de personnes d'ailleurs ayant assisté à ce procès, qui va se terminer aujourd'hui par un verdict sans surprise.
On n'en peut plus parce que c'est très très difficile d'entendre pendant 2 mois et demi cette litanie d'horreur. Vous avez les familles des victimes qui sont à votre droite et qui entendent vos questions, et vous imaginez, et on ne peut pas s'empêcher d'imaginer la douleur que vous leur occasionnez vous-même par vos questions. Il y a eu des moments extrêmement éprouvants, heureusement que ça se termine.
Fourniret, qui n'a pas voulu être défendu hier, a dit qu'il ne ferait pas appel.
Voilà l'affaire Fourniret, une vieille affaire qui remonte aux années 80 et qui remonte sans cesse. Est-ce que vous comprenez que le procureur, qui s'expliquait là de son réquisitoire, se soit fait déborder aussi par ses propres affects? Puisque vous évoquez ceux de la défense, c'est le cas de l'empathie.
Je peux comprendre humainement qu'on soit débordé par ses propres affects. Je passe ma vie à défendre des gens qui sont débordés par leurs propres affects. Il n'en demeure pas moins que je ne peux pas comprendre un procureur qui manipule cette question du monstre. Ce que je disais tout à l'heure, ce que j'évoquais tout à l'heure, autant je peux comprendre que ce mot circule, je peux comprendre sa fortune médiatique parce qu'elle soulage, comme je vous le disais tout à l'heure, elle appelle à la curiosité, mais à partir du moment où le parquet, le procureur vient dire cela, alors il faut qu'il dise dans le même temps que le procès n'est pas possible, ce qu'il ne fait pas. S'il s'agit de monstres, à quoi bon les juger? S'il s'agit de quelque chose d'incompréhensible, d'inaccessible, d'inextricable, alors il faut arrêter avec la justice, ce que je ne crois pas. Ou alors il faut le faire autrement, il faut le dire. Il faut dire qu'on renonce à la justice. Ce mot de monstre, c'est le mot antinomique.
Qu'est-ce qu'il faudrait dire ? Des hommes, tout simplement ?
Exactement, exactement. Il faut dire des hommes, avec l'horreur que contient ce mot aussi. Les hommes sont capables d'horreur.
La réforme de la justice, on va en dire un mot avant de se quitter, Maître Ilouz. L'examen du projet de loi porté par la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, reprendra le 3 décembre avec un vote prévu le 5 à l'Assemblée. Y a-t-il urgence à réformer et surtout concernant votre spécificité, est-ce que les droits de la défense, à vos yeux, sont mis à mal dans cette réforme ou au contraire renforcés ?
Je ne comprends pas trop cette réforme. Je ne vois pas ce qu'elle apporte sur les droits de la défense. Je pense qu'elle est malmenée à certains égards. Je ne vais pas rentrer sur les questions pratiques, notamment en matière de divorce, etc. Mais moi, j'espérais quelque chose autour de la prison, de la peine, qui ne vient pas. Au contraire.
C'est quoi? Qu'est-ce que vous espériez?
J'espérais qu'on se penche sur la question de la surpopulation carcérale par une incitation à une modification du rapport aux peines. On vous dit qu'on supprime les peines très courtes et dans le même temps, on interdit les aménagements de peine au-delà d'un an de prison ferme. Ce n'est pas, dans mon sens, aller dans le sens de la défense de la société. La question de la prison, qui pour moi, en tout cas dans mon domaine, dans ce que je défends, c'est quelque chose de central. Il faut que les prisons commencent à être désengorgées. Ce n'est pas possible qu'on soit dans un tel état. Il y a 57 000 places en prison, il y a 70 000 détenus.
Ça, c'est au niveau de la peine ou pas? Parce que le bracelet électronique, cette question-là est réenvisagée aussi dans le cadre de cette réforme. Ça peut permettre de désengorger.
Il faut, mais cette réforme, enfin, j'aimerais qu'il y ait une incitation beaucoup plus forte. On propose même de construire des prisons, de construire des nouvelles places de prison. À partir du moment où on construit des nouvelles places de prison, c'est qu'on ne va pas avoir recours à des peines alternatives à l'emprisonnement. Sur cela, je ne peux pas suivre les termes. Elle ne me suffit pas, elle ne me satisfait pas.
Et pendant qu'on construit des prisons, on ferme aussi des tribunaux. Oui. Plusieurs de vos collègues ont protesté contre cette réforme de la carte judiciaire, une fois encore. Vous qui êtes un avocat de proximité, et dans ce livre, même les monstres, Thierry Ilouz, vous rappelez l'importance de cet ancrage local dans votre défense. Vous voulez terminer par un plaidoyer pour cette justice de proximité?
Je voudrais témoigner pour toutes les proximités, la justice en particulier, parce que c'est très important qu'on puisse avoir son juge, si j'ose dire, proche, et qu'on puisse être. Mais la proximité, je l'entends dans tous les sens du terme. Je suis aussi pour la police de proximité dont on a parlé, qu'il y ait des gens qui soient au contact, diviser les gens, séparer les gens, c'est comme l'idée du monstre. Mettre à distance, c'est déjà un danger.
Merci beaucoup, Maître Ilouz. Merci d'être passé autour de cette grande table, Thierry Ilouz. Même les monstres, votre récit vient de paraître aux éditions de l'Iconoclaste. Merci d'avoir été avec nous. Un grand merci aussi à toute l'équipe de la grande table, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez pour la grande table des idées, à Oriane Delacroix avec Henri Leblanc pour la grande table culture. Merci à Jeanne Copé et à Jordan Joseph pour leur aide très précieuse à la réalisation aujourd'hui. C'était Milena Elig avec Marie Placé. Très bel après-midi à tous sur France Culture.